Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Dans un instant, le petit déjeuner de l'actu, Françoise Degout, Elisabeth Lévy, Eric Revel. Vos appels tous les matins, 0826-300-300. En attendant, on fait une revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, alors Macron cherche le bon tempo pour déconfiner, c'est ce qu'indique le Figaro ce matin.
Et oui, à la veille de ce plan qu'il va annoncer, détail dans la presse régionale, la levée des restrictions sanitaires qui sera prévue à partir de début mai. Concrètement, ça va commencer lundi, le 3 mai, avec la fin des restrictions de circulation, les 10 km et la rouverture des collèges et des lycées suivront ensuite plusieurs phases pour lesquelles on attend encore les détails et modalités, réouverture des terrasses, des restaurants, des lieux culturels, un agenda qui dépendra aussi du rythme des vaccinations sur lesquelles l'exécutif entend encore accélérer. En attendant, cinéma, ça va bouchonner, prévient Midi Libre. La date de réouverture des salles obscures reste encore inconnue, mais aujourd'hui, ce sont près de 400 films qui sont en attente de diffusion. La logistique s'annonce forcément déjà très compliquée pour les exploitants. Sur la crise sanitaire, toujours un passeport pour libérer l'Europe. Le Parlement européen vote en effet la création d'un certificat vert pour faciliter les voyages en Europe. C'est dans les échos. Bruxelles espère une mise en œuvre de ce passeport dès le mois de juin. Seront pris en compte les vaccins, les tests, l'immunité acquise des gens qui ont déjà eu le virus. En revanche, pour ce qui est des restaurants, des spectacles ou encore des musées, ça dépendra là des règles fixées dans chaque pays.
Ah oui, c'est ça. Le TGV à Toulouse. Et un mot majuscule qui est à la une de la Dépêche de Midi, victoire.
Bah oui, la mobilisation des élus a finalement payé. Le Premier ministre Jean Castex annonce un engagement de l'État en faveur de la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse. Un engagement à hauteur de 4 milliards d'euros. Une bonne nouvelle pour l'Occitanie.
Oui, au passage, d'ailleurs, on souligne qu'il y avait eu une pétition qui avait été lancée aussi dans le journal, dans la Dépêche du Midi, qui avait lancé, on en avait parlé hier matin. En revanche, il n'y a pas eu de nouvelles. Ça, c'est quand même à signaler. Pour l'autre versant, c'est-à-dire la ligne LGV qui doit aller jusqu'à Perpignan, quoi. Vous savez, c'est bloqué là, de l'autre côté de l'Occitanie. Il y a toujours une grande attente.
Hein. Bah, c'est peut-être étape par étape. Ouais. Emmanuel Macron aime bien fonctionner comme ça en ce moment. Donc, pourquoi pas, on verra en tout cas. Autre moyen de locomotion, en tout cas, la crise sanitaire qui dope le marché des camping-cars. C'est ce que nous apprend Nice ce matin. C'est de bon ton avant l'été qui se rapproche. En quête de liberté, un titre qui fait rêver, en tout cas, et un art de vivre qui offre une réelle autonomie.
On va le dire à Cécile, elle aime bien prendre la route et conduire un camping-car. Vous avez déjà conduit un camping-car, Cécile?
Vous dites ça à quelqu'un qui s'appelle Minibus?
Oui. Ah, c'est vrai. Bah, c'est un peu ça, non?
Ouais, c'est la même
famille.
Moi, je me balade toute la journée avec mon camping-car.
Ouais. C'est la même famille. Non, mais est-ce que vous avez déjà conduit un camping-car?
Conduit un camping-car? Absolument pas. Mais c'est pas mon truc.
C'est pas votre truc,
la
non
maison,
partir. Je pensais vous proposer de partir en vacances en camping-car cet
vous
été.
Vous savez quoi? Allez-y, je vous rejoins.
Ouais,
après, je comprends très bien qu'il y a des gens qui ont besoin d'espace,
jamais
être dans le même endroit.
Même endroit. Non, mais je trouve que c'est assez fascinant, effectivement. Le camping-car, après, il faut aimer bouger quand même.
Mais c'est vrai
tous
que moi, quand
jours.
Je pars en vacances, c'est assez rare. Donc, du coup, je préfère rester allongé pendant 3 jours. Voilà.
Ouais, bah vous pouvez rester allongé dans le camping-car
pendant
que quelqu'un
à
conduit. Bon, merci. Allez, voilà, après. Un dernier mot.
Un
dernier mot, Benjamin, avec
vous. Jean-Marc Ayrault, tu partiras dans le combi de Jean-Marc
Ayrault
en Allemagne.
Le combi Volvo.
Volkswagen, VW.
Très tendance encore, toujours ce combi VW. Non, mais c'est vrai.
Avec les.
Bon, un dernier mot quand même, parce que est-ce qu'on peut laisser Benjamin terminer la revue de presse si vous voulez venir? Bon, je sais même pas si ça vaut le coup d'en parler.
Sur la défaite du Paris Saint-Germain depuis
si,
hier soir.
Juste un chiffre.
Par le passé, seuls 7% des équipes ont réussi à se qualifier après une défaite 2-1 à domicile à l'aller. Voilà, ça c'est un premier chiffre. Et puis hier, dans l'équipe, la moins bonne note pour les joueurs du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé qui a récolté 3 sur 10. C'est pas beaucoup. Ça a été compliqué pour lui hier soir.
Ah oui, non mais ça c'est vrai. On poursuit. Merci à vous, Benjamin. On poursuit avec Pascal Ratineau, rédacteur en chef du Populaire du Centre, qui est avec nous. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bon, je vais pas vous demander si vous partez en vacances en camping-car. Vous avez vu, c'est notre sujet du jour.
Non, hein. Oui.
Même si dans la région Limousin, on sillonne beaucoup la région en camping-car. Hein. Non, mais ça.
Il y a des coins magnifiques et des communes. Les communes se sont dotées
d'aires de stationnement
spécialisées pour les camping-cars.
Oui, absolument. Votre une ce matin, Pascal.
Alors, je dirais deux informations qui sont à l'opposé l'une de l'autre, deux histoires. Celle de Jacques, qui est un retraité qui travaille en région parisienne, originaire du Limousin, qui est venu s'installer à nouveau dans sa région d'origine, et qui a une passion, c'est le vélo, les vélos anciens et les vélos de course, et qui a décidé de monter un musée qui ouvrira en 2022. Avec des vélos, des maillots de coureurs illustres du type Anquetil et autres, et puis des vélos de la Drésienne au vélo d'aujourd'hui. Donc une passion, une vie. Et puis de l'autre côté, Jean-Jacques, qui lui est décédé du Covid le 20 février. Tous les jours, nous publions des statistiques avec les taux d'incidence qui évoluent chaque jour, le nombre de personnes en réanimation, et puis malheureusement, nous égrenons le nombre de morts chaque jour dans la région, 4 encore hier. Et Jean-Jacques, il est mort du Covid le 20 février, sa famille a témoigné, parce que derrière toutes ces statistiques, il y a des drames humains, et nous voulions mettre en avant ces drames humains, parce qu'en plus, les familles, avec le Covid, ne peuvent pas dire au revoir à leurs proches qui décèdent.
Il avait quel âge, Jean-Jacques?
C'était un sexagénaire, hein, donc il était dans la tranche d'âge, voilà, il faisait partie de la tranche d'âge qui a été la plus impactée avec les gens entre 80 et 89 ans, puisqu'on donne ces chiffres-là sur la Nouvelle-Aquitaine.
Ah, octogénaire, non?
Vous avez
dit sexagénaire.
Sexagénaire, oui.
Sexagénaire,
les sexa et les octos, c'est ceux qui ont payé tous leurs tributs au Covid depuis le début de la pandémie. Et Jean-Jacques, il est mort un peu tout seul. Sa famille, ayant eu la chance de le voir, son épouse de le voir une dizaine de minutes avant le jour fatidique.
Évidemment, il y a beaucoup de témoignages toujours dans ce sens que vous publiez. Merci Pascal Ratineau d'avoir été avec nous, rédacteur en chef du Populaire du Centre, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.
Tout de suite, le petit déjeuner de l'actu. Françoise Degout, Elisabeth Lévy, Éric Revel, et on vous attend au standard 0826-300-300 pour débattre avec eux.
Oui, alors on va aborder dans un instant, on aura peut-être quelqu'un en ligne d'ailleurs dans le à 9h, la suite évidemment de la tribune des militaires, ça fait beaucoup causer, il va y avoir une convocation, des sanctions a priori contre certains qui ont signé donc cette tribune, ce que dit le chef d'état-major Lecointre ce matin dans le journal Le Parisien. Avant ça, on attend, il y a une forme un peu de suspense que disait Benjamin dans sa revue de presse, Emmanuel Macron qui cherche le bon tempo pour déconfiner. C'est vrai que il doit donner cette interview demain et il ne sait pas comment faire.
Françoise de quoi ? Vous savez, cette mise en scène me fatigue. On avait déjà compris la semaine dernière que Jean Castex ne disait rien pour permettre à Emmanuel Macron de dire. Ouais. Donc nous sommes dans un scénario habituel. Quel est son problème de tempo? Il ouvre ou il n'ouvre pas les terrasses le 15 mai? Il tient ou pas sa date le 15 mai? Il tient compte ou pas de la situation sanitaire? Quels sont les critères? On ne les a toujours pas. Bon, voilà, 30 000.
Donc c'est pour ça que c'est compliqué, finalement.
Mais je ne crois pas du tout. Moi, je pense que c'est uniquement de la mise en scène. Tout est déjà décidé. La question qui va poser un problème, je pense, c'est le couvre-feu sur un plan purement constitutionnel. Vous savez qu'on sort de l'état d'urgence le 2 juin. Ouais. À partir du 2 juin, on ne peut pas maintenir, ça je me suis renseigné avec des amis juristes, on ne peut pas maintenir à partir du 2 juin un couvre-feu national, sauf à voter une loi. Voilà. Donc, il va y avoir un sujet...
On ne peut pas proroger.
Non, on ne peut pas, puisqu'on est sorti de l'état d'urgence sanitaire le 2 juin. Donc, on peut avoir des couvre-feux locaux, mais on ne peut plus avoir un couvre-feu national à partir du 2 juin. C'est un point très important.
Mais ils peuvent voter une loi, non?
Non, parce qu'on n'a pas le temps organiquement, en fait, de le faire.
Mais on ne peut pas prolonger l'état d'urgence sanitaire?
Non, même en le prolongeant, on ne peut pas. Mais je vous assure,
on ne peut pas.
Donc ça va être un point hyper intéressant à regarder. Le couvre-feu peut se prolonger jusqu'au 2 juin. Après, il y a un problème juste légal, donc on va voir. Pour le reste, vous savez, c'est des acrostiches, moi ça me... C'est une mise en scène qui me fatigue.
Éric Revel et puis Elisabeth Lévy, tout d'abord. Et ensuite vos appels.
Mais vous avez demandé à qui de parler, Patrick?
À Elisabeth.
À moi, d'accord. Pardon, je croyais que vous aviez demandé.
Vous aviez passé la
parole à Eric. Voilà pourquoi.
Je
partage. Françoise a tout résumé avant même de parler par sa mine perplexe. Si vous voulez, je partage un peu cette perplexité et ce ras-le-bol du même sketch qui nous est joué absolument tout le temps. Et j'avoue que je ne le suis plus vraiment. J'attends d'avoir des décisions. J'en ai marre.
Oui, mais alors c'est
juste un mot. mot, un dernier mot. Encore une fois, et depuis le début, c'est la même chose. Encore une fois, les médias sont co-metteurs en scène de ces affaires.
De ces affaires.
On en parle pendant des jours, donc bon. Mais je trouve intéressant le point soulevé par Françoise.
Sur deux jours.
Le sentiment qu'on a, c'est que tout de même maintenant, il y a un rétro planning. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a la présidentielle, donc on peut se dire que l'argent coûte que coûte va continuer un peu, ne serait-ce que pour ça. Effectivement, il va falloir, si vous voulez, il peut pas lever le couvre-feu la veille de l'élection, quoi. Et qu'il apparaisse comme le gentil, comme le gars sympa qui pense à nos soirées, ça c'est bien.
Sketch ou pas, quand même, Éric Revel, c'est très attendu. L'ensemble du secteur touristique et pas que cela. Il y a énormément d'activités aussi qui voudraient être fixées pour savoir ce qui va se passer aussi dans les semaines qui viennent, quand même, non?
Oui, bon, ben moi je partage complètement l'avis de Françoise et d'Elisabeth. Merci à Françoise
pour
ses précisions sur le 2 juin, très important.
Oui.
Bah, il faudra suivre, mais juste, je sais pas.
On en a marre. En fait, c'est même pas une histoire de tempo. Les trucs dont on a besoin, c'est de deux dates. La première, c'est la confirmation que le 3 mai, on pourra faire plus de 10 km autour de son domicile. Puis la deuxième date dont on a besoin, c'est la réouverture des terrasses et des commerces. Point final. Le restant, tout a été dit, tout a été fait. Donc cette espèce de bouillie qu'on nous prépare en tournant la cuillère dans la casserole depuis des jours et des jours, ça va finir par prendre sur le bord, si vous voulez.
C'est pas mal, ça, comme image.
Sauf que, quand même, la France, quelle est la première véritable industrie et manne financière en France? C'est le tourisme. C'est le tourisme. Bon, donc, on ne sait toujours pas si tout va pouvoir ouvrir, comment se mettre en place, la culture cet été. Il y a quand même énormément d'interrogation, quoi.
Moi, je pense personnellement, je ne sais pas ce que disent nos camarades. Moi, je pense que tout est déjà réglé comme du papier à musique. Emmanuel Macron, je vous rappelle que l'interview, elle a été faite hier.
Pourquoi il ne le dirait pas aux corporations concernées, si tout était prêt?
Parce qu'elle est déjà, faite, l'interview. Elle a été faite hier par nos amis, les correspondants de la presse locale. Oui, elle a été faite hier après-midi.
Oh là, il n'y a pas de fuite, comment se fait-il?
Parce que je pense qu'ils ont un accord de confidentialité.
Ils vont feuilletonner à partir d'aujourd'hui.
C'est pour ça que je vous dis que
ce que dit Françoise. Elisabeth,
ça me fatigue terriblement parce que c'est déjà fait, c'est déjà dans les tuyaux. Après, la question, la question que je me pose évidemment, c'est comment on passe l'été? Est-ce que on referme parce que ça repart? Quelles sont les mesures un peu pour nous cadrer un peu plus que la dernière fois en mai? Après, pour le reste, tout est déjà écrit.
Nous cadrer? Vous trouvez pas qu'on est assez cadré?
Non, mais nous cadrer par rapport à
marre d'être cadré
par rapport à l'été dernier, ma chère Elisabeth.
Il y a besoin parfois de vous cadrer.
Cadrage, là tout de suite, Patrick.
Allez, 0826 300 300, qui est en ligne avec nous et qui pour réagir?
Abdelak.
Oui, bonjour Abdelak.
Bonjour, Damien Larson.
Bon, alors, qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, dans l'actualité ce matin, mon cher Abdelak?
Eh bien, moi, c'est ce que j'entends. Vous êtes des petites pleurnicheuses, c'est impressionnant.
J'adore l'expression! Les pleurnicheuses.
Non, mais c'est vrai, mais quelle bande de chialeuses.
Vous êtes des chialeuses.
Oh, attention, parce qu'on n'est pas loin de pisseuses. Hein. Faites attention.
C'est compliqué, ouvrir trop vite. Est-ce qu'il prendrait le risque, n'importe quel politicien, que ça reparte? Il y a quand même c'est pas encore maîtrisé. Il y en a qui disent que ça peut repartir, d'autres non. Les médecins ne sont même pas d'accord. Voilà, donc tout se joue. Alors évidemment, on met toujours des petites connotations démagogiques. Oui, mais il attend pour les élections et tout. Non, c'est des êtres humains d'abord. Et économiquement, c'est super important avec la manne et le tourisme. Mais à l'international, c'est bien pire que ce qu'on vit ici. Et puis franchement, ce jeudi pleurnicheuse, pourquoi? Parce qu'on n'est pas si bloqué que ça. Faut arrêter les conneries. Putain, mais on peut bosser, on peut être après 19h. Si on sort son boulot et qu'on a un truc urgent à faire, on nous empêche pas d'être soigné assez correctement. Waouh, moi c'est ce que j'aimerais entendre, c'est au moins dire franchement dans un truc inconnu, inconnu dans lequel on est rentré avec le coronavirus, quel que soit le parti, je trouve qu'ils s'en sont franchement pas trop mal sortis. Il faut juste ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe ailleurs. Ouais. Et je vous garantis que ils applaudiront demain ce qui se passe en France.
Non, moi je...
Pardon, je peux...
Ouais. Oh, vas-y, vas-y.
Attendez, vous allez dialoguer avec Abdellah, qu'on va juste après la pause dans un instant, hein, parce que sinon on va encore déborder comme d'habitude.
On s'en sort beaucoup mieux ailleurs, je suis désolé.
Pas partout quand même. Bah, on va voir.
Restez,
je suis avec vous.
Je suis avec vous.
Abdellah, on vous les garde au frais.
Moi, je suis neutre par ailleurs, mais politiquement. Mais en revanche, là, je suis avec vous.
Le Grand Matin Sud Radio continue jusqu'à 10h. Restez avec nous, on revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h04, merci d'être avec nous, toujours avec nos éditorialistes. Hein. Elisabeth Lévy, Éric Revel, Françoise
de Gouard. Les pleurnicheuses sont là.
Voilà, ils sont de retour.
Oui. On est là.
Et on a toujours Abdellah qui est avec nous, du Mont-de-Marsan.
Et dans un instant, on va revenir donc évidemment avec le général Trinquant aussi sur la suite de cette tribune parue dans Valeurs Actuelles de chef militaire et le chef d'état-major des armées qui annonce des sanctions à l'encontre des généraux signataires. Alors Abdellah, pour revenir en fait à ce que vous disiez tout à l'heure, vous disiez il faut arrêter en fait de taper peut-être parce que finalement c'est compliqué à tous les niveaux de prendre des décisions face à cette évolution en fait du virus quoi. En quelque sorte c'est ça. Hein.
Oui absolument, vous avez raison. C'est parce que il faut le problème des Français, c'est ce que je reproche. J'aime tellement mon pays et ce qu'il est, mais ce que je reproche c'est le niveau de raisonnement. C'est faible, parce que faut arrêter un petit peu. C'est super compliqué, c'est quelque chose de nouveau qui a été connu par aucun président, aucun ministre. Personne ne connaît le problème qu'on a connu avec le coronavirus. Et le risque est énorme. Est-ce que ça peut repartir? Est-ce qu'il peut lâcher les rênes tout de suite? Sachant qu'on n'est pas... On est privé, évidemment, de toutes les libertés. Mais on n'est pas en prison non plus.
Non mais Abdellah, moi je voudrais vous dire une chose.
Économiquement, on a besoin de reprendre l'activité. Donc, 100% des politiciens, des gens qui puissent décider, quel que soit leur niveau, voudraient que l'économie reprenne normalement. Il n'y a aucun plaisir, aucun sadisme, aucun sentiment perfide pour vouloir embêter les Français et essayer de faire du mal. Et c'est ça. Et j'aimerais que de temps en temps, s'il vous plaît,
écoutez, Abdellah,
il faut au moins une fois, s'il vous plaît.
Pas faire les pleureuses, vous, d'abord, parce que je pense que Bercy a rendu une copie parfaite, et souvent on le dit. Et deuxièmement, moi, je ne fais pas partie, je ferais plutôt partie, moi, des enfermeurs qui trouvent qu'il ne faut pas ouvrir trop tôt. Elisabeth est plutôt sur une autre ligne. Donc, on a le droit aussi, pardonnez-moi, j'entends votre discours et j'ai presque envie de pleurer, vous me tirez les larmes aux yeux sur ce pauvre Emmanuel Macron qu'on secoue tous.
Honnêtement,
les conneries qui ont été faites depuis le début, pardonnez-moi de vous le dire, on ne va pas recommencer sur les masques, les mensonges. Écoutez,
on peut participer.
Voilà, allez-y Elisabeth.
Elisabeth et puis ensuite Abdellah.
Moi Abdellah, je suis partagée. D'abord, j'aime bien les gens qui parlent cash et qui disent les choses de façon drôle et chialeuse et pleureuse, pleurnicheuse, ça m'a fait rire. C'est mignon, et voilà. Et vous n'avez pas complètement tort. Et vous n'avez pas complètement tort, parce que moi, je suis souvent partagée, je pense à ce que disait Raymond Aron, que souvent Alain Finkielkraut cite, et il disait, pour juger, il faut se mettre à la place d'eux. Et je reconnais, je parle pour moi, personnellement, je reconnais que parfois, effectivement, on cède à une forme de facilité qui consiste à ne jamais se mettre à la place d'eux. Et je conviens qu'on ne répète jamais, on ne répète pas tous les quatre matins, que par exemple, la France est un des rares pays où tout est gratos. Le vaccin, le test, etc.
C'est vrai, c'est même le seul, je pense.
La seule chose, donc vous avez raison là-dessus, moi, je suis parfois partagé, une partie de moi pense parfois ce que vous dites. Simplement, dans ce qu'on dit, d'abord, il y a au-delà des mensonges, il y a surtout, si vous voulez, on a découvert une espèce d'hystérie tatillonne de l'administration française qui mérite tout de même d'être regardé au-delà de la blague comme un problème peut-être à faire évoluer. Et deuxièmement, il y a la mise en scène de l'action. Et je termine juste en vous disant, quand je dis qu'Emmanuel Macron pense à la présidentielle, je ne suis pas naïve au point de penser que c'est mal. Si vous voulez, ça me semble assez légitime.
Bien sûr.
Allez, un mot de Françoise et ensuite Abdellah.
Absolument, il a le droit de penser à la présidentielle. N'importe quel président ferait comme lui. Après, moi, je pense que justement, on joue avec autre chose qu'un jeu politique. On joue avec des vies, on joue avec des êtres humains. Emmanuel Macron a fait un pari politique. Je pense qu'on ne fait pas de pari sur la maladie. Et je serai la première...
Ah, la voilà qui pleurniche.
Bien sûr, non, mais moi, je serai la première à dire bravo si on retardait même parce qu'on considère que la situation...
Conclusion avec... Voilà. avec vous, Abdel, la conclusion, parce qu'on va passer à un autre sujet ce matin. Mais,
oui, ce qui me dérange, alors pour terminer, ce qui me dérange une fois de plus, voilà, c'est que en fait, ça a des conséquences, les discours comme ça, où on relativise pas, où on dit en compta, recette, dépense, voilà, où la bonne mesure, le bon raisonnement, ça s'appelle la philosophie, c'est ça qu'on apprend aux élèves en terminale, c'est à avoir le bon raisonnement. Mais le bon raisonnement, c'est que c'est une situation hyper compliquée, c'est à gérer. Est-ce que j'ouvre ou que je ferme les portes? Est-ce que je prends le risque de tout détruire ou de d'y aller quand même, parce qu'à un moment, il faut que j'ouvre, parce que tout va s'écrouler, on est déjà dans une situation catastrophique. Et ce qui me dérange, c'est que au final, dans tout ça, c'est pour ça que politiquement, on n'a plus de gauche, on n'a plus de droite, on a les gens vont vers les extrêmes. Parce que, en fait, comme on n'arrive plus à relativiser et à bien raisonner, eh bien, moi, j'ai vachement peur, si vous voulez, dans ce que je vous dis, c'est d'entendre, il y a deux jours, ou d'écouter à la radio, que le Front National a toutes les chances de passer et diriger notre pays en 2022. C'est ça qui m'emmerde.
Non, mais je comprends.
C'est ça le résultat.
Bien sûr. De trop relativiser certaines choses.
Le résultat, c'est le résultat de la médiocrité de l'ensemble de la classe politique depuis 40 ans et de sa lâcheté.
Je ne sais pas si c'est la médiocrité. C'est aussi. Allez, on va refaire le débat.
La médiocrité totale. La classe ne peut pas interdire la critique.
Il y a le droit à la critique.
On ne va pas faire un front commun parce que Marine Le Pen menace.
Il y a eu Front Républicain.
Mais non,
quand même.
Mais enfin, on ne va pas s'arrêter de penser parce qu'à un moment donné,
Marine Le Pen. Vous ne voyez pas, il y a 20 ans déjà.
Parce que Marine Le Pen était en tête des sondages. On ne va pas nous faire
merci, Abdelhak. Vous avez bien mis une pièce dans la machine.
Les pleureuses sont là. Les pétroleuses.
Non, mais on reprendra ce sujet, en fait, parce que c'est assez intéressant. On évoquera d'ailleurs peut-être ça aussi sur la France tout à l'heure. Insoumission française. C'est le titre du livre de Sonia Mabrouk qui sera notre invitée jusqu'à 10h. Et d'ailleurs, vous pourrez appeler dans un instant pour lui poser des questions, lui faire des remarques. Si vous avez déjà lu ce livre ou si vous avez vu les interviews, ce sera dans un instant et c'est à suivre. Nous sommes donc avec le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonjour général.
Bonjour.
Évidemment, après la tribune qui est parue dans Valeurs Actuelles, il y a une mise au point ce matin du chef d'état-major des armées qui annonce des sanctions à l'encontre des généraux signataires. Il y avait déjà eu cette demande de Florence Parly, la ministre des armées, qui avait annoncé un recensement des signataires. Pour revenir quand même précisément aussi peut-être sur la tribune, est-ce qu'elle reflète quelque chose de ce qui se passe au sein de l'armée, général Trinquant?
Non, alors attendez, la tribune, elle n'a pas été écrite par des gens qui sont au sein de l'armée, elle a été écrite par des retraités. Alors sur les sanctions qu'a annoncé le général Lecointre hier, il y a deux choses à voir. Il y a d'abord les militaires d'actifs, il y en a 18 qui sont identifiés pour l'instant. Ils seront sanctionnés, et ça c'est normal. La discipline faisant la force principale des armées, comme disait autrefois, il faut respecter les règlements, et non, ils n'ont pas respecté les règlements, donc ils seront sanctionnés. Ça c'est la première chose.
Quelles sanctions ils peuvent avoir, général?
Alors,
c'est pas une radiation de l'armée.
Normalement, non. C'est des sanctions, ils vont passer en conseil de discipline. Mais si vous voulez, ça dépend beaucoup. Alors, le général Lecointre, à juste titre, différencie les gradés d'un niveau élevé et les soldats. Les gradés d'un niveau élevé, eux, sont plus sanctionnés que les soldats parce qu'ils sont, ils sont en charge, si vous voulez. Donc, ils ne peuvent pas réagir comme ça l'a été. Deuxième point, vous le citiez tout à l'heure, la question des officiers généraux en deuxième section, dont je fais partie. Là, la question est plus ambiguë, donc moi je ne fais pas le droit. Je laisse faire les choses et on va regarder ce qui se passe. Il y a le général Piquemal qui avait été radié, lui, déjà, mais parce qu'il était intervenu dans une manifestation interdite. Donc lui, son cas ne se pose plus, il a déjà été radié. La question se pose pour les autres. Maintenant, sur la tribune elle-même, à l'évidence, c'est une tribune éminemment politique. D'ailleurs, toutes les têtes de liste qui sont sur cette liste-là sont affiliées au Rassemblement National. Madame Le Pen a immédiatement réagi en disant « rejoignez-nous », ce qui était un peu amusant puisqu'ils avaient déjà rejoint, donc c'était pas la peine de leur dire. Voilà, elle est éminemment politique. Alors, en revanche, les autres qui sont à la retraite ont parfaitement le droit de s'exprimer. Ce que je reproche beaucoup, c'est que ça apparaisse sous la forme d'une tribune qui mélange un peu les genres et qui donne l'impression pour beaucoup de nos concitoyens qui connaissent pas forcément les tenants et les aboutissants, ils voient des grades et ils disent c'est l'armée qui s'exprime. Ça n'est pas l'armée qui s'exprime. Ce sont des retraités qui ont parfaitement le droit de penser ce qu'ils veulent. mais ils n'ont pas à mettre en avant pour autant leur grade et leur cohésion militaire qui n'existe plus, puisque ce sont des citoyens électeurs et qui ont le droit
mais,
de parole.
Mais qui peuvent voilà. avoir un regard général.
Non,
trinquant.
Mais bien sûr. Non, ouais. Alors là, je reviens sur le ouais. fond du sujet. Je ne dis pas que tout est faux dedans. Mmh. Je dis que c'est la façon de le présenter qui est mauvaise. C'est éminemment politique. On met en cause le gouvernement actuel, alors que les problèmes qui sont évoqués là, ça fait 40 ans que ces problèmes sont évoqués. Ils ont été plus ou moins bien traités, que ce soit par la gauche ou par la droite, et aujourd'hui, il y a un gouvernement qui est à la manœuvre et qui essaye de les traiter. Il n'y a qu'à voir ce qui a été présenté en Conseil des ministres hier. Oui. Donc voilà, c'est la façon dont c'est présenté, mais en tout cas, ça ne reflète pas l'armée. Oui. Ça reflète l'opinion d'anciens militaires.
Voilà. Oui. Cela dit, quand on voit ce qui se passe, alors c'est un autre niveau, mais dans la gendarmerie et dans la police, avec là on avait le témoignage tout à l'heure d'une femme de policier qui disait mon mari, comme beaucoup d'autres, ils sont dégoûtés aujourd'hui parce qu'ils ne se sentent pas protégés, parce qu'ils ne se sentent pas considérés, parce qu'ils interviennent dans les quartiers et c'est extrêmement difficile. Ils sont un peu dégoûtés par le métier. Est-ce que il n'y a pas une crainte que à l'avenir, parce que la situation est quand même compliquée en France aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, hein,
bien sûr.
Donc qu'il n'y a pas non plus peut-être une forme de crainte de certains militaires, de se dire, on risque de nous appeler peut-être, parce qu'on rappelle qu'il y a des politiques eux-mêmes qui avaient dit qu'il faudrait appeler l'armée pour pouvoir intervenir dans certains quartiers. Hein. Bon, c'était une élue socialiste.
Hein. Oui, alors ça c'est une crainte qui est de longue date. Hein. Mmh. Je citais 2005, je ne sais pas si vous en souvenez,
Oui.
C'était pas le gouvernement actuel. Je partais dans une mission en Asie centrale et là, quand je suis arrivé, on m'a traité en héros parce que j'avais réussi à sortir de Paris puisque toutes les images montraient la banlieue en feu.
Oui.
Vous voyez, donc c'est ancien. Bon, et donc évidemment, il y a cette crainte. Alors, en plus, je pense que la violence s'est beaucoup développée. La jeunesse actuelle a beaucoup moins de limites qu'elle n'en avait il y a 30 ou 40 ans. Il y a eu un incident, je crois que c'est à Bobigny, hier ou avant-hier, avec un policier qui était affreux, qui s'est fait tabasser. Bon, donc évidemment qu'il y a cette crainte. Maintenant, ce que je crois, c'est que donc le droit doit évoluer pour protéger les gens qui doivent amener la paix et la sécurité, doivent démanteler les réseaux qu'il y a à droite et à gauche. Ceci va prendre du temps parce que je répète, ça fait 40 ans qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Donc je comprends la crainte des gens qui sont les policiers qui vont intervenir dans un certain nombre de lieux. C'est très difficile.
Est-ce que finalement, quelque part, cette tribune ne va pas non plus secouer un petit peu le cocotier, réveiller aussi certaines choses pour se dire s'il y en a certains qui pensent là, alors ce sont certes, ils ont des accointances avec un parti politique, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais quand même, quoi, non ? Est-ce que ça ne va pas participer à une prise de conscience ?
Je crois que la prise de conscience, elle est là. Elle n'a pas besoin d'une tribune comme ça. La tribune comme ça, ça met
de l'huile sur le feu.
Dans l'Anderno, ouais. Voilà, ça met du sel sur les plaies, ça met de l'huile sur le feu, ce que vous voulez. Mais la prise de conscience, elle est là. Et quant au rôle des armées pour intervenir dans les banlieues, pardon, parce que j'avais raté cette partie de votre question, c'est une question qui se pose depuis longtemps. Les armées évidemment préparent, mais ne veulent pas rentrer là-dedans parce que les armées, c'est fait pour faire la guerre. Oui. Et le jour où on fait intervenir les armées pour régler un certain nombre de problèmes en France, je ne parle pas de l'opération Sentinelle qui est là pour protéger, mais de les faire intervenir en offensive, on rentre dans la guerre. Oui. Et ça, je souhaite à mon pays de ne pas rentrer dans cette phase-là. Hein.
Oui. Merci beaucoup pour votre franchise, général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, on le rappelle, et vous soulignez les missions que vous aviez menées, notamment dans ces années 2000-2005. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio à propos de cette tribune dont on va encore forcément parler dans les heures qui viennent, dans les débats de Valérie Expert chez André Bercoff et dans Les Vraies Voix ce soir, notamment dans un instant.
Et à suivre, c'est un essai sous forme de cri d'alarme que pousse Sonia Mabrouk, sur les nouvelles menaces qui pèsent sur notre civilisation et nos libertés. Ça s'appelle Insoumission française aux décisions. Édition de l'Observatoire. Elle sera avec nous dans un instant. Et vous pouvez d'ores et déjà appeler au 0826 300 300 pour débattre.
Oui, ça sonne.
Et pour échanger avec elle.
0826 300 300. Allez-y, ça sonne, vous aurez la parole.
Ça sonne. Décrochez, Patrick.